Radio Cassine, grand témoin.
Merci de rester fidèle à Grand Témoin. Aujourd'hui, Grand Témoin vous fait découvrir Espérance Baïdila. Elle est docteure en sciences de l'information et de la communication et conseillère au ministère de l'Information. Espérance Baïdila est aussi la première femme professeure à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFACIC en Sigre. Nous lui disons merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Kelly de m'avoir invitée.
Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les hommes et femmes des médias? Comment assainir le paysage médiatique congolais? Voilà des questions que nous aborderons tout au long de notre émission. Pour l'instant, nous allons découvrir qui est Espérance Baïdila.
Je suis née à Kinshasa un certain 24 mars 1965. J'ai fait mes études primaires et le cycle secondaire, c'est-à-dire première et deuxième secondaire au lycée Sacré-Cœur, Bossangani. Quand j'ai terminé, je suis allée au lycée Motemampiko où j'ai terminé mon cycle des humanités avec dans la section pédagogie générale.
Et avec quel pourcentage?
J'ai eu 56%. En fait, je n'étais pas heureuse de mes résultats, mais je dois dire que j'étais une fille brillante en classe, mais j'étais turbulente. Voilà, quand j'ai terminé, j'avais opté de faire le droit à l'UNIKIM, mais finalement, je suis venue à l'UCI à l'époque. Pour passer le concours et faire le journalisme, j'ai été reçue à ce concours. Je suis entrée en première année de graduat. J'ai terminé normalement. 5 ans après, j'ai obtenu un diplôme de licence en sciences de l'information. J'ai été retenue comme assistante. Et puis j'ai travaillé comme assistante pendant 4 ans. Assistante premier mandat, deuxième mandat.
On va revenir sur ça. Là, vous êtes mariée?
Oui, je suis mariée et mère de 5 enfants, 4 filles et un garçon.
C'est une grande famille quand même.
Voilà, je suis mère de famille nombreuse.
Et c'est facile pour vous de concilier le travail et la famille?
En fait, c'est une question de stratégie et d'amour par rapport à ce que l'on fait. J'ai su très jeune, heureusement pour moi, qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes dans la société. Ça dépend en fait des capacités dans chacun. Donc j'ai fait concilier en fait mon ménage et tout ce que je fais comme activité en dehors de mon foyer. C'est une question d'organisation et de niveau de responsabilité en fait.
Vous quittez la maison le matin pour venir le soir?
Oui, pas, je ne rentre pas tous les jours le soir, mais au moins quand je quitte la maison le matin, tout le monde part. Mon mari va également au travail, mes enfants vont à l'école. Nous rentrons, ils savent que maman travaille en dehors du foyer. Mes enfants me soutiennent en fait dans ce que je fais. Je crois que je suis une fierté pour mes enfants, je suis un modèle pour eux. Mais dès que je rentre, je fais tout pour trouver mes enfants encore éveillés. Parce que je dois avoir le temps de parler avec eux, de connaître les problèmes de chacun. Ouais. Et de toujours remettre tout en ordre dans la maison.
Est-ce que ça ne vous fatigue pas?
En fait, je crois que je suis habituée à un rythme de travail assez dur. Depuis l'enfance, j'ai dû m'en travailler. Vous savez, les écoles où je suis passée, ce sont des écoles réputées sérieuses où on fait travailler beaucoup les gens. Donc, c'est un rythme de travail. Et j'ai eu un père également qui était assez sévère et une mère également et qui nous ont soumis en fait à un rythme de travail que nous essayons de garder jusqu'à présent. Quand je n'ai pas de travail, je trouve ça normal.
Espérance est combien de la famille?
Je suis 6e d'une famille de 10 enfants, 8 filles et 2 garçons, voilà.
Quelques souvenirs d'enfance que vous gardez?
Bon souvenir. Je garde de ma famille une famille unie. J'ai eu des parents qui étaient très unis. Ça, ils restent pour moi un modèle, même s'ils ne sont plus en vie. Donc j'ai eu un modèle, le modèle d'un père qui était sévère et qui était tout le temps à la maison pour s'occuper de ses filles, parce que je viens d'une famille où la majorité est composée des filles, des femmes aujourd'hui. Donc j'ai eu une mère attentionnée, même quand nous avons grandi, même en dehors de notre maison, du toit paternel, avec nos maris, notre maman avait toujours un regard maternel sur nous. Donc c'est cette image-là que je garde d'une famille unie où nous partageons en fait les joies et les peines.
Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez turbulente, mais pas un casse-tête pour les parents.
Je vois, je me souviens encore de mon père qui était tout le temps convoqué à l'école. En fait, c'est vrai, je reconnais que j'étais une dérangeuse, mais ce qui me sauvait, c'est que j'étais une fille intelligente.
Radio Capine, grand témoin.
grand témoin reçoit Espérance Baïdila, docteur en sciences de l'information et de la communication et conseillère au ministère de l'information. Espérance Baïdila est aussi la première femme professeure à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Revenons sur votre parcours scolaire, académique. Vous entrez à l'ISTI à l'époque en quelle année?
C'était en 1986.
Là, vous avez fait quoi comme option?
J'ai fait le journalisme politique extérieure et critique littéraire. C'était comme ça à notre époque, journalisme radio-télévision, voilà. Je suis licenciée en journalisme radio-télévision, option politique extérieure et critique littéraire.
Et vous terminez vos études avec quelle mention?
J'ai toujours terminé mes cycles avec des distinctions.
Toujours?
Toujours, oui.
Très brillante.
Toujours le cycle graduat distinction, licence distinction, DS grande distinction, le doctorat avec la plus grande distinction.
Dites-nous par où vous avez commencé votre carrière professionnelle après votre diplôme de licence à l'IFATIC.
Quand j'ai terminé le graduat d'abord, j'avais été retenue parce que j'avais fait mon stage à l'époque à la radio nationale, la RTNC. J'avais immédiatement été retenue par mes responsables qui avaient trouvé en moi, en fait, quelqu'un qui pouvait bien rendre service par rapport au travail de journaliste. Donc, j'avais déjà commencé à travailler alors que je n'avais pas encore terminé ma licence. Donc, quand j'ai fini mon graduat, je travaillais déjà à la RTNC comme journaliste à la radio.
Et c'était facile, les cours et le travail?
Ben oui, c'était un peu compliqué parce que non seulement que je devrais travailler et étudier, mais j'étais également mariée déjà à l'époque, quand j'avais fini mon graduat, et je devrais également mettre au monde en un moment. Donc,
c'était dur pour vous.
Exactement, c'était très dur, mais je dois dire que quand je sais que j'ai un chemin à parcourir, je fais tout pour l'atteindre et mon nom est Espérance. J'espère toujours que ce que je fais va me réussir. En fait, j'ai combiné le travail, le ménage et les études. J'ai terminé mon cycle de licence. J'ai été retenue comme assistante parce que j'avais terminé de manière brillante également. J'ai été retenue comme assistante et...
Distinction, grande distinction?
Non, j'ai terminé la licence avec une distinction de 75%. Et puis, j'ai été retenue immédiatement. J'ai fait un mandat, en fait, qui était rapide quand même, je dois le signaler. Donc, j'ai fait 4 ans d'assistanat. J'ai fait 2 ans comme chef de travaux. Et puis, je suis allée pour le DS. Quand on a ouvert le 3e cycle, j'ai fait partie de la première promotion. J'ai présenté, en fait, en temps record mon mémoire de DS. J'avais terminé. Et finalement, j'ai été reçue pour le doctorat. Et là également, je l'ai terminé en un temps record également. Je dois dire que les études à ce niveau-là sont très difficiles compte tenu des moyens à mettre pour faire ce genre d'études dans notre pays. Vous connaissez très bien la situation sociale que nous traversons dans ce pays. On fait une thèse de doctorat sans bourse. Mais je crois que quand on a la volonté et on veut absolument arriver, on sait ce que l'on veut exactement, on met quand même les moyens et on y arrive. Ben, je crois que j'aime les livres depuis toujours. Mon père m'a appris à aimer les livres, mais également les écoles où je suis passée. Donc, j'achète plus les livres que les habits ou les bijoux. Donc, ça m'a permis quand même de terminer vite et je crois que j'ai eu des très bons encadreurs qui m'ont permis en fait de terminer assez rapidement mon travail. J'ai terminé mon doctorat. En fait, la loi dit que pour nous qui avons fait, nous avons connu un processus en fait, on est déjà dans l'enseignement, dans les activités scientifiques, on devient d'office. C'est ce que la loi dit. Donc, parce que j'ai été assistante, premier mandat, deuxième mandat, j'ai été chef de travaux, j'ai eu un diplôme de DS et j'ai fait le doctorat. En fait, j'ai toujours eu à enseigner. Donc, en réalité, je n'avais pas besoin d'une période probatoire, mais j'ai quand même subi cette période probatoire. Et je l'ai terminé, j'ai été nommée professeur associée.
Et comment Espérance Baïdila se retrouve au ministère de l'Information?
Eh bien, je crois que l'on veuille ou pas, les gens nous connaissent quand même par ce que nous faisons. Je sais que je suis une femme qui prend souvent la parole en public et je sais également que ma thèse de doctorat a été largement diffusée, comme c'était la première d'une dame quand même dans le domaine des sciences de l'information et de la communication dans notre pays. Je suis reconnaissante pour ce travail qui a été fait pour moi. Je crois que le ministre, c'est comme ça qu'il m'a connue et a dit « ben, je voudrais travailler avec cette femme ». Je n'étais même pas au pays quand
il vous a connu avant qu'il ne devienne ministre de l'Information.
Il m'a connu avant qu'il ne devienne ministre de l'Information. Moi, je ne le connaissais pas. En fait, il m'a suivi un jour à la télé. C'est ce qu'il m'a rapporté. En fait, il m'a suivi un jour à la télé et il avait apprécié, en fait, mes propos. Et le jour où il est devenu, il m'a cherché. Il m'a attendu, j'étais aux États-Unis pendant ce moment-là, il m'a attendu à mon retour, il m'a demandé de travailler avec lui. Je me suis dit que c'était quand même une expérience que je manquais dans mon CV, une expérience quand même administrative, et c'est le domaine qui est le mien, je n'ai pas vu d'inconvénient que d'accepter en fait de l'aider dans ce sens-là.
Espérance Baïdila, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre peau de professeur? Vous ne vous sentez pas marginalisée par les hommes?
Je me sens très à l'aise parce que il fallait quand même que ça arrive. Je me disais, il y a en fait de l'injustice quelque part. C'est vrai qu'on arrive par soi-même et par les autres, par le travail de tous les jours, mais je suis dans une institution où les femmes viennent étudier en majorité. Il y a, je crois, plus de 80% des étudiants de l'IFASIC qui sont les femmes. Comme vous savez que le domaine de la communication, même en dehors de l'Afrique, ne fait que se féminiser, mais on n'avait jamais eu de professeur femme. Moi, je me sentais très mal à l'aise. Mais maintenant, c'est pourquoi j'avais dit, il faut absolument que je fonce pour être le modèle pour toutes ces femmes qui viennent, en fait. Donc, le travail académique, la recherche, moi, ça me plaît beaucoup. Et je pense que je suis à l'aise, je prends mes collègues comme vraiment des collègues, ce sont des partenaires. Il n'y a pas, parce que là nous parlons en termes de compétences, donc il n'y a vraiment pas de crainte là-dessus. Je suis vraiment à l'aise.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin reçoit Espérance Baïdila, docteur en sciences et l'information et de la communication et conseillère au ministère de l'Information. Espérance Baïdila est aussi la première femme professeure à l'Institut facultaire des sciences et l'information et de la communication IFASIC en Suisse. Nous allons joindre quelqu'un pour vous, que vous connaissez sûrement, peut-être, je ne sais pas, vous allez deviner. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
À qui avons-nous l'honneur? Je vois Madame Baïdila rire là-bas.
Robert Tumungu.
Robert Tumungu, vous êtes le mari de Madame Baïdila?
Vous l'avez dit.
Oui. Dites-nous un peu, si ce n'est pas un secret, comment vous vous êtes connu?
Bon, je ne sais pas comment les autres se connaissent, mais nous, c'était par un pur hasard. On s'est rencontrés, vraiment par hasard.
Par hasard comment? En route, dans un resto, supermarché?
Je lui ai fait une photo, parce que j'étais photographe ambulant.
Mm-hmm.
Et à partir de là, tout a commencé.
Et puis, ça aboutit jusqu'au mariage.
8 ans après.
8 ans après?
Bien sûr.
Madame Baïdila, 8 ans après?
Ouais.
Pourquoi?
Ben, il fallait attendre. Il fallait répondre à certaines exigences familiales. Il fallait attendre.
Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques bons souvenirs pendant les fiançailles?
Pendant les fiançailles, on se rencontrait tous les jours pendant 8 ans.
C'était pas fatigant tous les jours?
Tous les jours.
Et c'est qui voulait, madame ou vous?
Nous deux. On ne s'est jamais fatigué de se rencontrer.
C'est les bons souvenirs que vous gardez de vos fiançailles?
C'est ces bons moments que nous passions ensemble à nous chamailler, à nous dire des bonnes choses, des mauvaises. C'est le meilleur souvenir que j'ai.
Et qu'est-ce que vous aimez en votre femme?
Ce que j'aime en ma femme, c'est sa vision des choses. Elle a une vision assez claire. Même si de temps en temps, je ne la partage pas au début, mais elle y croit, elle persiste, et finalement j'adhère. Quand j'ai vu, c'est pas que je fais le Saint Thomas, mais nous avons deux natures différentes. Elle est très intrépide, pendant que moi je suis très réservé. Mais je l'accompagne souvent.
En fait, je suis surpris de voir que la personne que vous avez prise, c'est mon mari. Eh ben, je crois que ce qu'il dit là est vrai. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps, quand j'étais encore très jeune. Il nous a dit que nous avions passé 8 ans avant de nous marier.
Donc on se connaît très bien. Au-delà du fait que Robert c'est mon mari, mais c'est également un ami pour moi. Donc il a dit des choses qui sont vraies. Nous avons des natures qui sont différentes et je crois que c'est cette différence-là qui constitue l'attirance entre nous. On s'aime bien et on a des enfants. Nous partageons comme tout couple en fait de moments de joie et de peine. Je crois que c'est ça. On se connaît très bien l'un et l'autre et on vit ensemble voilà depuis longtemps.
Robert, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas en votre femme?
Ce que je n'aime pas,
ouais,
c'est justement son intrépidité.
Je pense que c'était une qualité pour vous.
Oui, autant c'est une qualité, autant c'est un défaut, par moment.
Et à quel moment c'est une qualité?
Quand on en a besoin.
Mais c'est quand?
Bon, c'est difficile de donner des cas concrets. Mais ce qui est vrai, c'est que parfois il est bon de manger quand on a faim. Parfois il n'est pas bon de manger parce que ça peut poser des problèmes. À propos d'intrépidité, je disais qu'il lui arrive aussi d'en faire un peu trop. Et parfois même de prendre trop de risques. Bon, quand c'est trop, c'est toujours pas bien. C'est ça. Mais en dehors de ça, non, ça va. C'est vraiment bien.
Alors, Robert Timongo, pour mettre un peu plus de bonne humeur dans cet entretien, quelle chanson vous dédiez à madame votre épouse?
Je choisirai pour elle Doudou de Mayaoula Mayoni.
On va demander à la technique de nous balancer la chanson Doudou de Mayaoula pour le plaisir de madame Baïdi La Espérance.
Ah ben, ça c'est une surprise.
Je suis tellement comblé en amour, ça n'est pas le mot qui m'a écouté ma femme. J'en viens sans faire ça, c'est que ma plaisir, et en plus, mon doudou est fidèle.
Monsieur Robert, vous êtes toujours avec ton livre?
Oui, je suis encore avec vous en ligne.
Pourquoi avoir choisi cette chanson pour le plaisir de madame votre épouse?
En fait, je vous ai dit qu'elle était intrépide, elle était très curieuse, elle faisait attention aux choses auxquelles moi je ne faisais pas attention. C'est elle qui, il y a environ 10 ans, avait dédié cette chanson pour moi, alors que je ne la connaissais pas.
À quelle occasion?
Ah, je me rappelle plus, il y a 10 ans, je crois que c'était des dédicaces à la radio. Alors, quand j'ai écouté les paroles, j'ai dit qu'elle avait raison. Et aujourd'hui, c'est la réponse du berger à la bergère.
Madame, contente.
Merci.
Un petit mot à monsieur votre mari.
Je dis merci. Il sait qu'il est mon ami de tout le temps. On s'aime beaucoup, il le sait.
Jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort.
Merci beaucoup, Robert Timongo, pour votre participation. à cette émission.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Rendez-moi ma femme le plus rapidement possible.
Pas de problème.
Radio Classique, grand témoin.
Grand témoin, je suis avec Espérance Baïdila, docteur en sciences et information et de la communication et conseillère au ministère de l'information. Espérance Baïdila est aussi la première femme professeure à l'Institut facultaire des sciences et l'information et de la communication IFACI-CONCIDE. On va parler d'actualité, madame.
D'accord.
22 chaînes de télévision et 16 stations radio privées de Kinshasa sont interdites de diffusion. D'après le ministère de l'Information et Presse, ces médias ne disposent pas de licences d'exploitation. Cette décision vise à assainir l'espace médiatique de la RDC. Les GED, qui est une ONG des défenses de journalistes, estime qu'il y a eu vice de procédure. Le ministre de l'Information aurait dû d'abord s'entretenir avec les responsables de ces médias avant de les frapper. On va écouter Donam Baya, qui est président de GED.
On ne peut pas ne pas soupçonner des intentions politiques. Il fallait qu'on puisse d'abord écrire individuellement à ces médias-là, les invitant individuellement à venir devant la commission pour éclaircir leur situation avant d'en arriver à cette mesure. Faudra-t-il interdire un espace de liberté pour des problèmes administratifs ou fallait-il donner à chaque média le temps de se mettre en règle pour privilégier l'espace d'expression? Je ne pense pas que la légalité est au-dessus de la liberté d'expression.
Madame Baïdila, votre réaction.
En fait, il y a eu vice de procédure. Non, je ne pense pas qu'il y a eu vice de procédure. Peut-être M. Mbaya, qui est un collègue et un ami pour moi, ne sait pas que le ministre avait réuni en fait les associations de presse avant de prendre cette mesure. À trois reprises, le ministre a reçu la MEAP, a reçu l'UNPC, a reçu en fait les journalistes, et depuis qu'il avait pris en fait ses fonctions en tant que ministre de l'Information, Presse et Communication Nationale, il avait en fait déjà dit aux journalistes qu'il y avait l'assainissement qu'il voulait faire dans le secteur. Nul n'ignore que le secteur des médias dans notre pays a beaucoup de problèmes. Il fallait absolument passer par l'assainissement. Mais les ministres qui ont passé avant M. Toussaint Filombo n'ont pas fait ce travail parce que c'est un travail effectivement délicat. Mais il fallait absolument arriver à 50 chaînes de télévision uniquement pour la ville de Kinshasa. C'est trop quand même. Toute personne qui vient dans ce pays est étonnée par ce fait. On peut bien avoir une diversité, mais diversité ne veut pas dire qu'il faut que nous ayons plusieurs chaînes, 50 chaînes. Diversité, on doit l'avoir, moi je pense, dans le contenu des médias. Et déjà, il y a un problème technique, mais également politique. Nous avons un problème avec Brazzaville, Congo-Brazzaville, qui est en fait notre voisin le plus rapproché. Nous avons un problème de spectre de fréquence, parce que nous, en tant que Kinshasa, nous utilisons plus de 90% du spectre de fréquence, alors que ça devrait être divisé 50-50%. C'est un problème qu'il faut résoudre sur le plan international. Mais si on doit aller plus loin dans les problèmes, oui, ce sont des chaînes de télévision, mais je crois qu'en tant qu'entreprise commerciale, parce que il existe sous le statut de SPRL, en tant qu'entreprise commerciale, ces chaînes ou les responsables de chaînes de télévision devraient d'abord faire un travail qui permet par exemple de connaître la faisabilité du travail, quels sont les besoins de la population en matière des médias d'information, quelle est la loi en cette matière. Ben ça, c'est les gens ont exploité les médias comme ils le font exactement avec ce que nous appelons communément les magablos. Je me réveille un matin et j'ai un peu d'argent, j'ai des connaissances, des réseaux, voilà, je crée ma chaîne de radio, de télévision. Mbaya sait que c'est un problème. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Ce sont des chaînes pour la plupart qui ne payent pas de journalistes, qui n'ont pas de cahier des charges, qui n'ont pas un programme bien établi. Voilà, le problème est très sérieux. Et je crois, moi je me dis que le ministre, c'est vrai, c'est lui le numéro un, mais il a quand même des conseillers qui sont des techniciens et qui font le travail de terrain. Les journalistes ou les associations des journalistes ont été avisés à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, on commençait même un peu à se moquer du ministère pour dire, mais à quand l'assainissement? Parce que tout le monde savait que c'était un travail très délicat. Mais en fait, pour le bien de la population, je
je crois que cette population a droit quand même à des médias de qualité. Il faut considérer la population. Les médias ne peuvent pas être aux mains, en fait, de n'importe qui vient, comme si on faisait un ligablo devant la porte de sa parcelle. C'est quand même l'information, c'est une matière sensible. Quand vous avez 50 chaînes de télévision et vous avez la même chose partout dans ces chaînes-là, si ce n'est pas le ndombolo, c'est le théâtre, ou bien c'est la presse avec les religions, ce sont des problèmes. Qu'est-ce que notre population a besoin? Notre population a besoin de quoi? Qu'est-ce que les médias doivent donner à notre population? Moi, j'aime bien dire un adage qui dit « Dis-moi ce que tu donnes à regarder à ton peuple, je te dirai qui tu es ». Il sait très bien que nous sommes très critiqués sur le plan international. Voilà, il faut remettre de l'ordre. Ce sont des mesures impopulaires, mais nous savons que c'est très important et il faut absolument remettre de l'ordre. Je crois qu'il faut que les mesures prises par le ministre de l'Information, le ministère de l'Information, soient soutenues par tout celui qui a un esprit critique et qui veut vraiment aider cette population aider notre pays, en fait, à aller de l'avant dans ce secteur.
Quelles sont les dispositions que le ministère a mises en place pour le respect strict de cette mesure?
Eh bien, il y a beaucoup. Il y a le secrétariat général, en fait, à l'information, presse et communication nationale, qui est chargé de l'exécution de la mesure. Mais il y a également, si les gens ne respectent pas, ben, il y a la police qui doit faire son travail. Il y a le ministère de la Justice, en fait. À chacun son travail, l'arrêté est sorti. Et plusieurs autres services doivent absolument nous soutenir pour que ces chaînes-là se remettent en ordre. Et ils ont déjà commencé à le faire. On attend, la commission est en train de revérifier en fait les dossiers. Il faut, vous savez, il y a beaucoup de chaînes qui n'avaient même pas de dossier, mais ils ont un récépissé. Or, pour avoir le récépissé, qui est en fait une conclusion, il faut commencer au début, avoir un dossier au complet pour recevoir un récépissé. En fait, nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas la notion de l'ordre, ou le respect en fait de l'autorité. Il faut absolument, si nous voulons aller de l'avant, que les gens se mettent en rang dans tous les secteurs. Comme ça, nous allons penser en fait le développement dans ce pays, le respect de la loi, le respect de l'autorité, de l'ordre établi, comprendre quand même la loi en matière de l'activité en fait, par exemple les médias. Si je veux investir dans le secteur, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que dit la loi en la matière. Vous savez, vous avez des personnes qui sont des entrepreneurs dans le secteur, mais qui ne connaissent pas la loi de la presse. Moi, je trouve ça très grave.
Et Madame Baïdila, vous pensez qu'en interdisant à ces chaînes d'émettre, le milieu médiatique est assaini?
Mais nous commençons, c'est un grand travail, vous savez, c'est un très très grand travail et nous avons besoin des soutiens des organisations des médias. D'ailleurs, ils nous soutiennent. C'est un grand travail qui n'a fait que commencer et la commission se réunit tous les jours pour consulter en fait les dossiers de ces chaînes, mais également pour recevoir des gens qui viennent avec leurs recours. Le travail se fait de manière technique. Il n'y a même pas le point de vue politique en fait qui émerge dans cette décision, parce que les chaînes qui ont été fermées, ce sont des chaînes de l'ANP, de n'importe quelle obédience politique. Donc en fait, on s'est basé seulement sur la loi. Il n'y a pas de sentiment dans cette affaire. On s'est basé sur la loi.
Et là, plusieurs personnes se retrouvent maintenant au chômage.
Oui, il y a, mais ce sont des gens qui, pour la plupart, ne sont pas payés, parce que nous allons revérifier même les contrats de travail. Vous savez dans quelles conditions travaille le journaliste de notre pays. C'est une personne qui n'est même pas respectée par ceux qui les embauchent. C'est pour la plupart, moi je les appelle des commerçants. En fait, c'est une expression qui n'est pas injurieuse. Ce sont des commerçants qui ne connaissent rien dans le secteur, qui ne payent pas des gens qui travaillent pour eux. Ça, c'est un problème sérieux. Et le journaliste doit être le premier à soutenir les mesures prises par le ministre de l'Information, Presse et Communication nationale, parce qu'il ne fait que protéger le journaliste, le professionnel des médias. Donc l'assainissement est à plusieurs niveaux en fait. Là, nous ne faisons que commencer.
Vous avez un petit dernier mot à dire à l'assainissement du milieu?
Par rapport à l'assainissement, je demande en fait, en tant que conseillère à la presse, je demande aux chaînes qui ont été fermées de se mettre à l'ordre et de suivre en fait la loi. C'est très important pour notre pays. Nous devons être sérieux en la matière et je demande à la population et aux associations des médias de soutenir en fait la mesure qui a été prise, parce que c'est une mesure qui permettra à notre presse d'être sérieuse comme les presses des autres pays du monde.
Merci. Merci beaucoup, Espérance Baïdila, grand témoin. Recevez pour vous Espérance Baïdila, docteur en sciences de l'information et de la communication et conseillère au ministère de l'Information. Espérance Baïdila est aussi la première femme professeure à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication Ispacic-Cosfide. Nous lui disons merci pour sa disponibilité. Merci. L'équipe des grands témoins vous remercie pour votre attention. Cette émission a été réalisée par Guy Roger Niampala et mise en onde par Guy Manzangou. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net où vous avez aussi la possibilité de voir les photos de nos invités. Bonne suite de programme sur Radio Capi.